Éric Bataillon.
Bonjour. Du gaz en Méditerranée orientale, ce n'est pas nouveau, mais cette fois, la découverte offshore réalisée par la compagnie pétrolière italienne Eni est énorme. Les réserves annoncées dépassent les 850 milliards de mètres cubes. De quoi assurer des revenus réguliers à son heureux propriétaire, l'Égypte, et une autosuffisance énergétique aux Égyptiens. Si le pèlerinage de la Mecque a été particulièrement meurtrier cette année, plus de 700 pèlerins piétinés lors d'un mouvement de foule jeudi, d'autres en sont privés. C'est le cas d'Irakiens de Mossoul, pourtant autorisé par l'État islamique, mais refusé par le gouvernement de Bagdad. C'est l'une des informations sélectionnées pour nous par les observateurs de France 24 ce mois-ci. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
La compagnie pétrolière italienne Eni a annoncé fin août la découverte d'un très important gisement de gaz en Méditerranée orientale, en territoire maritime égyptien. Une bonne nouvelle donc pour le Caire. Cette information a été largement commentée aussi bien par les journaux du pays que chez le voisin israélien. Francis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Président de Stratégie et Politique Énergétique. Alors tout d'abord, les réserves annoncées pour ce gisement en eau profonde, 850 milliards de mètres cubes de gaz, sont-elles fiables ?
Oui. Il est clair que Eni est une compagnie sérieuse, qui a une très bonne connaissance du territoire égyptien à terre et en mer, puisque ce groupe est en Égypte depuis 60 ans. Donc ils ont une connaissance hors pair des potentialités de l'Égypte. Ils ont fait un certain nombre d'études techniques suite à cette découverte avant de communiquer, bien sûr, sur ce sujet-là. Donc je crois qu'on peut considérer, comme à peu près certains, le fait qu'il s'agisse d'une très grosse découverte, la plus importante découverte de gaz en Égypte, la plus importante découverte de gaz en Méditerranée, et un champ qui peut-être d'ailleurs, on pourra voir, mais ça ce n'est pas sûr, à l'avenir une réévaluation des premières estimations qui ont été données, mais ça dépend de forages qui interviendront ultérieurement. Il y a en effet un deuxième réservoir qui n'a pas encore été testé. Si ce deuxième réservoir était important, le chiffre des réserves pourrait être revu significativement à la hausse, mais là il faut parler évidemment au conditionnel.
Alors quelles conséquences peut-elle avoir pour la population égyptienne ?
Des conséquences importantes. L'Égypte était, il y a à peine quelques années, un pays exportateur de gaz. Exportateur par gazoduc vers Israël, vers la Jordanie, et exportateur de gaz naturel liquéfié, transporté par bateau vers les marchés internationaux. Dans le cadre des soubresauts liés aux printemps arabes, l'Égypte est devenue un pays importateur de gaz. Grâce à cette découverte et grâce à quelques autres développements concernant le gaz en Égypte, notamment avec le groupe britannique BP, l'Égypte voit la perspective, d'ici quelques à plusieurs années, de pouvoir redevenir autosuffisante, voire exportatrice de gaz. Donc ce sera très important pour la population et pour l'économie égyptienne. Il y a cette découverte d'Eni et il y a des développements gaziers très importants avec BP et une firme allemande qui est son associée. BP prévoit des investissements gaziers de l'ordre de 12 milliards de dollars sur plusieurs années. Donc avec ces différentes bonnes nouvelles dans le gaz en Égypte, c'est effectivement très important car l'Égypte pourrait renverser sa situation récente et actuelle de pays importateur de gaz, quelques années à peine après être devenu un exportateur de gaz.
Un peu moins bonne nouvelle pour les voisins, et notamment pour Israël, qui pensait bien pouvoir vendre son gaz à l'Égypte.
L'histoire est pleine d'ironie, on le sait bien dans différents domaines, y compris dans le domaine de l'énergie. Il y a quelques années, l'Égypte exportait du gaz vers Israël par gazoduc. Les autorités égyptiennes, après la chute de l'ex-président Moubarak, ont décidé d'arrêter ces exportations parce qu'elles estimaient que le contrat gazier était trop favorable à Israël. Ensuite, on découvre du gaz en Méditerranée orientale au large d'Israël, plusieurs découvertes importantes, et on entrevoit la possibilité que Israël devienne exportateur de gaz vers l'Égypte. Et puis, nouvelle surprise, nouveau coup de théâtre, cette découverte gazière très importante en Méditerranée par le groupe italien Eni, et l'Égypte peut entrevoir à nouveau la possibilité de devenir autosuffisante et de ne plus avoir besoin, d'ici quelques années, du gaz israélien.
Est-ce que politiquement, sur le plan diplomatique entre les deux pays, il pourrait y avoir des conséquences ?
Je ne pense pas. Évidemment, il s'agit d'un enjeu très important, mais il y a la dimension énergétique, et puis il y a de nombreux aspects politiques, géopolitiques, stratégiques, dans une région, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, Proche-Orient, extrêmement troublée, comme on le sait. Les deux pays conservent évidemment des intérêts communs importants, même s'ils ne s'expriment pas toujours sur la même musique. Et je ne pense pas que cela entraînera une détérioration supplémentaire, en tout cas, des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. Il y a une autre dimension clé, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, depuis plusieurs années, essaie de se diversifier en termes d'importation par rapport à la domination du gaz russe. La Méditerranée orientale est l'une des zones possibles en tant que nouvelle province gazière et l'une des sources sur lesquelles compte la Commission européenne à l'avenir, bien sûr, pour pouvoir importer du gaz. Cela va donc contribuer à accroître encore la visibilité de la Méditerranée orientale sur l'échiquier énergétique régional et international, notamment, bien sûr, sur le plan du gaz.
Donc beaucoup de découvertes de gaz dans cette région. Y en aura-t-il d'autres à venir? Et notamment, on pense aux côtes libanaises, voire syriennes.
La Syrie est évidemment, pour des raisons politiques évidentes et de sécurité, en dehors du jeu pour sans doute quelques ou plusieurs années, je ne sais pas. Le Liban, c'est différent, c'est plus le fait que la classe politique libanaise n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord pour lancer un appel d'offres pour l'exploration. Pour faire des découvertes, il faut explorer, c'est une vérité de la palisse, sauf que parfois, certains responsables politiques libanais oublient cette logique évidente et sont très soucieux de se partager à l'avance les futures recettes du gaz qu'on n'a pas encore découvert. Mais les études techniques dont nous disposons laisse penser qu'il y a un potentiel gazier, voire peut-être pétrolier, important au large du Liban, mais ce potentiel ne pourra être vérifié et évidemment valorisé que si des compagnies étrangères sont en mesure d'explorer, ce qui suppose que le Liban se mette en ordre de bataille pour lancer cet appel d'offres pour l'exploration que l'on annonce depuis des années.
Est-ce que ces découvertes successives sont de nature à apaiser les tensions politiques et plus dans cette région?
Oui et non. C'est une réponse de Normand. Mais ce qui est vrai, c'est que le pétrole et le gaz, les hydrocarbures, ont à la fois le potentiel d'être un facteur de tension accrue, mais aussi, il ne faut pas voir non plus que cette vision à la fois réaliste mais aussi pessimiste, un facteur de coopération régionale accrue. Parce que le gaz, le pétrole aussi, mais le gaz encore plus, suppose des relations entre pays. Un pays ne peut pas tout faire tout seul, il doit chercher des marchés, il doit, pour exporter son gaz, souvent passer par le territoire d'autres pays, par rapport à des gazoducs, etc., le tracé de certains gazoducs. Et dans cette région-là, on a potentiellement ces deux aspects. Lorsqu'il y a eu les grandes découvertes au large d'Israël, certains responsables libanais se sont dit « Attention, ils sont en train de nous prendre notre gaz. » S'il n'y a pas une délimitation claire en mer entre le Liban et Israël, et le Hezbollah libanais a menacé Israël d'attaques contre de futures plateformes si Israël touchait à une goutte du gaz libanais. Donc on voit bien développement des tensions, alors qu'on n'en avait déjà pas besoin, et possible conflit. Donc il y a cet aspect-là, potentiellement négatif. Et puis on peut aussi rêver, et c'est peut-être pas d'ailleurs uniquement un rêve, que comme cela a pu se passer dans certaines autres régions, avec un petit peu de temps sans doute, les responsables politiques se disent le gaz peut aussi permettre de développer des coopérations internationales, régionales. Ça ne veut pas dire qu'on sera forcément du jour au lendemain les meilleurs amis du monde, mais il y a des intérêts communs autour de la question du gaz. Certains pays sont exportateurs, d'autres importateurs, d'autres sont des pays de transit. Chacun peut y gagner, sur le plan économique en tout cas. Alors qu'est-ce qui triomphera dans cette région? La coopération ou un surcroît de tensions? Les réalistes diraient sans doute dans cette région, c'est toujours les tensions qui l'emporteront. On peut aussi de temps en temps être un petit peu optimiste, mais disons raisonnablement optimiste.
Merci Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique.
Merci beaucoup.
Sur RFI.
Les observateurs de France 24 nous ont encore envoyé ce mois-ci leurs informations insolites, humoristiques, décalées ou révoltées. Ils le font chaque jour tout au long de l'année. Bonjour Jamel Belayachi.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'un de ceux qui collectent et vérifient ces informations et vous en avez retenu trois pour Orient Hebdo, notamment celle-ci qui vient d'Irak. Des pèlerins de Mossoul en partance pour la Mecque ont été empêchés d'entamer le Hajj officiellement pour des questions de sécurité.
En fait, Eric, les autorités irakiennes craignaient que des djihadistes se soient infiltrés parmi ces pèlerins, car la ville de Mossoul est contrôlée par l'organisation de l'État islamique. Fin août, alors qu'ils tentaient de se rendre en bus à l'aéroport de Bagdad pour prendre l'avion vers l'Arabie Saoudite, ces pèlerins ont donc été interceptés par l'armée, puis parqués dans un camp en rase campagne pendant plusieurs jours, sans eau ni nourriture. Des députés de Mossoul se sont mobilisés pour débloquer la situation. Et finalement, parmi les 900 pèlerins, seuls les hommes âgés de plus de 60 ans et les femmes de plus de 45 ans ont été autorisés à se rendre à la Mecque. Ce qui provoque l'indignation d'une députée que nous avons contactée. Les personnes âgées ne peuvent pas effectuer le pèlerinage sans être accompagnées de jeunes membres de leur famille, nous a-t-elle dit, car selon elle, le Hajj est une épreuve physique extrêmement éprouvante. Et sans leurs jeunes proches, ces pèlerins vont beaucoup souffrir.
Et le Hajj, rappelons-le, a déjà fait cette année plusieurs centaines de morts et blessés dans des mouvements de foule ou des accidents. Une autre information en provenance du Liban cette fois, le Liban où la milice chiite du Hezbollah est bien embêtée par la présence dans ses rangs d'un trafiquant notoire.
Oui, il s'agit de Nouh Zaitar et c'est l'un des plus gros trafiquants de drogue du Liban. Chapeau de cow-boy vissé sur la tête et paire de jeans, il s'est récemment mis en scène avec des combattants du Hezbollah dans la région de Qalamoun à l'ouest de la Syrie. Sur des photos devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux, on le voit notamment discuter avec des militaires, se déplacer sur une batterie aérienne ou encore empoigner une mitrailleuse lourde derrière une barricade. Le Hezbollah, qui n'a pas du tout apprécié cette publicité, a affirmé n'être concerné ni de près ni de loin par ces photos. Visiblement vexé, le narcotrafiquant est revenu à la charge et posté des photos de lui aux côtés de plusieurs chefs militaires connus du Hezbollah.
Enfin, Jamel, les observateurs ont suivi le périple du pianiste de Yarmouk, un réfugié qui a fui la Syrie pour l'Europe de l'Ouest.
Il s'appelle Ayham Ahmed. Il est né et a grandi dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, au sud de Damas. Pendant longtemps, Ahmed n'a pas voulu quitter le camp, pourtant assiégé et quotidiennement bombardé par le régime syrien depuis juillet 2013. Il aimait à descendre dans les rues dévastées du camp, avec son piano sur un chariot, pour chanter l'espoir. Mais lorsqu'un djihadiste de l'organisation de l'État islamique s'en prend à lui et brûle son instrument, sa vie bascule. Il décide, la mort dans l'âme, de quitter le camp et il entame son voyage vers l'Europe le 2 août. Son périple le mène en Turquie, en Grèce, en Macédoine, puis en Serbie, sur terre ou sur mer. Ahmed le raconte dans un journal poignant dont nous publions des extraits sur notre site internet.
Un site dont je vous rappelle l'adresse, observers.france24.com. Merci Jamel Belayachi.
Merci Eric.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, le drame du pèlerinage de la Mecque jeudi est à la une de tous vos journaux.
Oui, des journaux qui, pour la plupart, n'accusent pas les autorités saoudiennes d'être responsables de ce qu'ils qualifient de catastrophe. Alors, seul le journal électronique libanais Ad-Diyar affirme que le drame a été déclenché par les gardes du corps qui accompagnaient le vice-prince héritier qui s'était rendu sur le pont d'où les pèlerins lapident des colonnes qui représentent Satan. Alors un lieu où, selon les journaux, plusieurs accidents ont déjà eu lieu par le passé à cause des, justement, bousculades dans cet espace restreint. Les journaux se font aussi l'écho de fatwas selon lesquelles les personnes mortes au cours du drame sont des martyrs qui iront directement au paradis. Alors rappelons que pratiquement tous les pays arabes ont eu leur lot de victimes. Les chers soulignent aussi que ceux qui n'ont pas pu le faire à cause du drame sont exemptés de la lapidation de Satan.
Michel Paul, la tension à Jérusalem et en Cisjordanie fait la une de la presse israélienne avec, Michel, de nouvelles mesures prises par le gouvernement.
Oui, des consignes de tir moins strictes pour les forces israéliennes de l'ordre. C'est en tout cas le titre qui est repris par l'ensemble des journaux du week-end. Et c'est, précise les quotidiens, la décision du cabinet de sécurité israélien à la suite des frictions entre policiers et palestiniens, notamment en Jérusalem, et plus particulièrement sur l'esplanade des mosquées et dans sa proximité immédiate. Dans Mariv, ce titre, feu vert pour des tirs à balles réelles sur les Palestiniens mineurs. Une décision, indique le journal, qui a été prise à l'unanimité. Mariv donne d'autres précisions sur les décisions du cabinet. Peine minimale de 4 ans de prison pour les lanceurs de pierres et de bouteilles incendiaires. Des amendes très fortes pour les fauteurs de troubles et surtout pour leurs parents s'il s'agit d'enfants en bas âge. Une citation de Benjamin Netanyahou est également dans le journal. Il est impensable que des projectiles meurtriers soient lancés sans que nous réagissions. Yedioth Acharonot a lui choisi de faire sa manchette sur un autre aspect du problème. Augmentation de salaire pour les policiers à Jérusalem pour les compenser en raison des conditions difficiles de l'exercice de leur profession dans la ville sainte.
Et puis Michel, la presse pointe également un revenant au Proche-Orient, la Russie.
Oui, cela a également fait la une des journaux cette semaine avec la visite express de Netanyahou en Russie et sa rencontre avec Vladimir Poutine. Alors les journaux parlent avec nombreux commentateurs et experts militaires de la nouvelle donne au Proche-Orient, le retour des soldats russes sur le terrain en Syrie et l'absentéisme de plus en plus remarqué des États-Unis. Des explications aussi sur le mécanisme qui est mis en place entre la Russie et Israël, une sorte de nouveau téléphone rouge pour une coordination des activités en Syrie. C'est dans 2 semaines, indique Mariv, que les chefs d'état-major adjoints des deux pays vont se rencontrer pour la première fois. Petite irritation israélienne, toujours selon la presse, personne n'avait dit aux Israéliens que la marine russe s'apprêtait à lancer de grandes manœuvres en Méditerranée au large des côtes israéliennes.
Alexandre Bouchanti, le Eid al-Adha ou fête du sacrifice, est l'occasion pour le journal Al-Quds Al-Arabi de revenir sur l'état d'effondrement du monde musulman et arabe.
Oui, et le journal se demande si on verra un jour le monde arabo-musulman fêter le Eid en paix et en harmonie. Alors pour l'éditorialiste, en fait, le monde arabe fait face à une vraie Nakba ou catastrophe. Il y a des guerres civiles, des interventions étrangères et surtout des confrontations religieuses qui risquent de plonger le monde arabe dans un chaos dont il pourra difficilement se remettre. Le journal estime que le problème le plus pressant au stade actuel est de trouver un remède à l'extrémisme du groupe État islamique, mais aussi des groupuscules apparentés qui sèment la terreur et la mort dans plusieurs pays arabes.
Aïd, toujours Alexandre, la presse égyptienne dénonce le phénomène d'égorgement dans les rues qui se propage dans tout le pays.
Oui, moutons, veaux et même dromadaires ont été égorgés dans les rues de toutes les villes d'Égypte, y compris au Caire. Pourtant, le gouverneur avait formellement interdit cette pratique sous peine de lourdes amendes. Il avait même ouvert les abattoirs gratuitement au public pour éviter de déverser le sang dans les rues. Mais visiblement, très peu de personnes en ont profité, la majorité ayant préféré égorger devant sa porte. Les journaux affirment que la variante nouvelle cette année est celle des selfies que les Égyptiens prennent avec le mouton ou pendant ou après qu'il soit égorgé. Alors, des experts cités par les journaux mettent en garde contre les maladies que pourrait provoquer cette viande découpée à l'air libre et souvent à même le sol. Mais cela est loin d'avoir découragé les plus nécessiteux qui profitent des distributions gratuites de viande de la part de ceux qui ont égorgé un mouton. Rappelons qu'un kilo de viande coûte presque 1/10 du SMIC.
Michel, Paul, autre sujet, des ONG israéliennes sont à l'honneur cette semaine.
Oui, c'est dans Yedioth Aharonot, un dossier spécial sur ces Israéliens qui viennent en aide aux migrants syriens. Alors, plusieurs pages sont consacrées à ce sujet dont on parle peu, avec des photos prenantes réalisées sur des plages grecques.
Et puis la saga pour la nomination d'un nouveau chef de la police israélienne se poursuit.
C'est la fin du premier épisode du feuilleton de l'été pour les Israéliens. Le ministre de la Sécurité intérieure a finalement renoncé à la nomination de son candidat, le général de réserve Gal Hirsch. Les enquêtes à son sujet prenaient trop de temps. Un rebondissement ce week-end, un nouveau candidat, le numéro 2 du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Reste à voir s'il sera plus chanceux que son prédécesseur.
Et pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Et vous l'avez deviné, c'est la photo de Bar Refaeli, la top modèle israélienne qui vient de convoler en juste noce un mariage loin des caméras des paparazzi. Une zone de non-vol a même été décrétée pour écarter les curieux.
Merci Michel. Merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par François Porcheron que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr et sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite un nouveau journal.